Donc, je suis doctorant au centre d'études biologiques de Chizé. Je travaille donc dans la zone atelier Plaine et Val de Sèvres. Je vais vous parler donc des relations entre plantes adventices et pollinisateurs sauvages dans les paysages agricoles. Donc, pour commencer, on a un déclin global des insectes pollinisateurs sauvages et notamment dans les paysages agricoles, que ce soit en termes de nombre d'espèces ou d'individus. Et tous les guildes de pollinisateurs sauvages sont concernés, donc les abeilles, les papillons et les cirfes. Un des enjeux dans les paysages agricoles, c'est donc de réussir à inverser le déclin de ces pollinisateurs. Parce que ces insectes, ils vont contribuer à hauteur de 30 et 35% des rendements du colza et du tournesol, donc deux cultures qui sont d'intérêt économique majeur en France. Et pour maintenir l'efficacité et la résilience du service de pollinisation, il faut une stratégie qui est basée sur une diversité d'insectes. Donc les plantes adventices, donc c'est les plantes qui vont pousser dans les parcelles agricoles, elles sont présentées comme un des leviers pour augmenter la diversité de ces pollinisateurs sauvages. Pourquoi? Parce qu'en parallèle du déclin des pollinisateurs, on a eu un déclin de ces plantes adventices, aussi en termes de nombre d'espèces ou d'individus. Et ces plantes adventices, elles sont impliquées dans les réseaux d'interaction mutualiste plantes-pollinisateurs, où en fait, elles vont fournir des ressources aux insectes pollinisateurs. Donc, ces ressources, ça va être le nectar et le pollen. Donc, la question qui se pose, c'est donc si les plantes adventices, elles permettent de maintenir les pollinisateurs sauvages. Donc, expérimentalement, ça a été montré, oui. Augmenter la diversité et l'abondance des plantes adventices, ça permet d'augmenter la diversité et l'abondance des pollinisateurs. Par contre, à l'échelle de la parcelle agricole, ça a été beaucoup moins étudié parce qu'on a de nombreuses contraintes, notamment le fait qu'il y a beaucoup plus d'espèces d'adventices et de pollinisateurs qui sont impliquées, mais aussi, et c'est un point que je détaillerai juste après, qu'on a des espèces qui sont domestiquées et qui sont impliquées dans les réseaux d'interaction plantes-pollinisateurs. Donc, ces espèces domestiquées, ça va être d'abord des cultures qui vont fournir un plus de ressources florales. Donc, ça va être dans les cultures de colza au printemps, mais également dans les parcelles de tournesol en été. Et cette floraison massive, ça va donc instaurer une compétition entre les plantes adventices et ces cultures à fleurs, donc pour les pollinisateurs. La deuxième espèce domestiquée qu'on va trouver dans les paysages agricoles, c'est l'abeille domestique, dont sa présence, elle va dépendre notamment de la présence de ruches dans les paysages agricoles. Et en fait, cette abeille domestique, elle va rentrer en compétition pour les ressources avec les pollinisateurs sauvages. Donc, cette compétition, elle va pouvoir être sur les fleurs de culture, donc sur les fleurs de colza ou sur les fleurs de tournesol, mais également sur les fleurs adventices quand ces cultures-là ne sont pas en fleurs. Mais du coup, on a peu de connaissances sur l'effet des plantes adventices, du coup, dans le maintien des pollinisateurs sauvages en présence de ces cultures mellifères, donc colza et tournesol, mais également en présence de l'abeille domestique. Donc, un autre point, qui sont présentes dans les paysages. Et ces ressources, elles sont fournies d'abord par les habitats semi-naturels, mais aussi par les cultures à fleurs. Donc, la présence de ces habitats dans le paysage, ça va influencer fortement la diversité, mais également l'abondance des pollinisateurs qu'on va trouver dans les parcelles. D'abord, les cultures à fleurs, donc colza, tournesol, leur présence dans le paysage va diminuer cette diversité de pollinisateurs, donc en ayant un effet attractif dans le paysage. Et au contraire, les habitats semi-naturels, donc les haies, les bois ou les prairies, ils vont augmenter la diversité des pollinisateurs dans une parcelle, parce que ce sont des sources de pollinisateurs. On a peu d'idées, par contre, des interactions entre ces contextes, cette composition du paysage et les effets locaux, notamment en termes de disponibilité en adventice dans les parcelles. Donc, pour l'étude des relations entre adventices et pollinisateurs dans les parcelles agricoles, on a de nombreux mécanismes qui sont mis en jeu, et c'est ce que je synthétise sur ce diaporama. Et d'abord, on part du postulat de base que plus va y avoir d'adventices en termes d'espèces ou d'abondance dans une parcelle, plus on va avoir de pollinisateurs dans cette parcelle parce que c'est leur ressource. Par contre, en présence de l'abeille domestique, on peut s'attendre à ce que les adventices jouent un rôle moins important dans le maintien des pollinisateurs sauvages parce qu'on va avoir de la compétition pour ces adventices. Pareil, en présence de cultures à fleurs, les adventices pourraient avoir un rôle moins important à jouer dans le maintien des pollinisateurs sauvages parce qu'on aura déjà un effet attractif des fleurs de culture sur les pollinisateurs sauvages. Mais en présence de l'abeille domestique dans ces parcelles-là, on pourrait s'attendre à ce que les adventices jouent un rôle important dans le maintien des pollinisateurs sauvages s'il y a de la compétition entre abeilles domestiques et pollinisateurs sauvages, donc pour les fleurs de culture. Et donc, on aurait une ségrégation de niche. Pareil, au niveau du contexte paysager, on peut s'attendre à ce que la présence d'habitations naturelles dans le paysage facilite donc ces relations entre adventices et pollinisateurs, donc par production de pollinisateurs dans le paysage, et au contraire à ce que la présence de cultures à fleurs dans le paysage ait un effet négatif sur ce maintien des pollinisateurs sauvages par les adventices, donc dû à une compétition dans le paysage. Donc nous, on a voulu prendre en compte tous ces mécanismes et essayer de comprendre si la diversité et l'abondance des adventices, elles permettaient de maintenir la diversité et l'abondance des pollinisateurs sauvages dans les parcelles agricoles, tout en comprenant l'impact des cultures à fleurs, de l'abeille domestique, mais également du contexte paysager sur ces relations. Et pour étudier ça, donc on a mis en place différents protocoles dans la zone atelier Pleineval de Sèvres, donc dans différentes cultures, donc dans des parcelles de colza et de tournesol, donc qui fournissent des fleurs, mais également dans des parcelles de céréales et des prairies. Et toutes ces parcelles, elles ont été échantillonnées de manière à maximiser des gradients paysagers, donc des gradients de quantité de prairies et de bois dans les paysages alentours, donc les habitats semi-naturels, mais également de quantité de colza et de tournesol dans le paysage alentour, donc les cultures à fleurs. Donc dans l'ensemble de ces parcelles, on a échantillonné les pollinisateurs sauvages, les adventices, mais également estimer l'abondance des abeilles domestiques en parallèle. Donc, indépendamment dans chaque culture, on a étudié donc les pollinisateurs sauvages en fonction de conditions locales, avec les adventices, l'abeille domestique, mais également les interactions entre les deux, les conditions paysagères, avec la quantité de bois, de prairies, mais également de cultures à fleurs comme le colza, et les interactions entre ces conditions locales et paysagères. Et donc, dans chaque culture, on a 16 modèles parce qu'on a travaillé avec différents indices, que ce soit pour les pollinisateurs sauvages et les adventices. Donc, on a pris en compte leur richesse, les indices de diversité de Shannon et Simpson, avec Simpson qui donne plus de poids aux espèces abondantes, également avec l'abondance totale des individus. Et donc, on a pris en compte ces différents individus, d'abord pour comprendre si c'était plutôt les espèces rares ou les espèces abondantes de pollinisateurs sauvages qui étaient influencées par ces facteurs locaux et paysagers, également pour comprendre si c'était plutôt les espèces rares ou abondantes d'adventices qui étaient impliquées dans le maintien des pollinisateurs. Et donc, pour chacun de ces 16 modèles, on a estimé à la fois les effets des différentes variables, mais également les échelles d'influence les échelles d'influence des différentes variables paysagères. Et ça s'est fait à l'aide du package Sealand, donc sur R. Donc, par exemple, ça, c'est les résultats qu'on obtient dans les cultures de céréales, où on a estimé les différents effets pour chacune des variables, avec des effets positifs en rouge et des effets négatifs en bleu. Donc, je vais détailler les résultats dans les différentes cultures. Donc, d'abord, ici, on a deux graphiques dans des parcelles de céréales et de prairies qui montrent les relations entre le nombre d'espèces adventices et le nombre d'espèces de pollinisateurs sauvages. Et ce qui est important, c'est que dans les cultures de céréales, on montre qu'il y a une relation positive entre cette richesse en adventices et cette richesse en pollinisateurs sauvages. On a le même type de tendance en prairies, mais rien de significatif. Dans les colzas, on a une interaction qui est intéressante entre l'abondance en abeilles domestiques et la diversité des adventices, donc ici montrée par Shannon, dans l'explication de la richesse des pollinisateurs sauvages. Donc, les trois graphiques, en fait, ils représentent la richesse des pollinisateurs sauvages en fonction de la diversité de Shannon des adventices, et ça pour différentes catégories d'abeilles domestiques, donc faible ici, moyenne et forte. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'abondance en abeilles domestiques est faible, on n'a aucune relation entre la diversité des adventices et la richesse des pollinisateurs sauvages. Par contre, dès qu'on a une abondance moyenne en abeilles domestiques, on va avoir une relation positive. Donc, ce qui montre l'importance de la diversité dans les parcelles de colza, mais seulement quand on a une abondance suffisante en abeilles domestiques. Au niveau du contexte paysager, on a vu et confirmé d'autres études donc, avec un fort effet du paysage. Par exemple, ici, je vous présente trois graphiques qui représentent donc l'abondance en pollinisateurs sauvages en fonction de la quantité d'habitats boisés dans le paysage, et ça dans des cultures de colza, céréales et prairies. Et quel que soit le type de culture, on a un effet qui est négatif. Et cet effet négatif, il est additif dans le sens où cet effet négatif, ça va être le même quelle que soit la diversité ou l'abondance des adventices dans les parcelles. On a également montré de rares cas d'interaction entre ces contextes paysagers et cette disponibilité en adventice dans les parcelles. Et ici, je m'intéresse aux parcelles de colza où on avait une avance moyenne ou importante. Donc, vous vous souvenez, on avait une pente positive entre diversité des adventices et richesse des pollinisateurs sauvages. Et donc, cette pente, en fait, elle va pouvoir être modifiée en fonction des conditions paysagères. Donc, sur la figure de gauche, je représente le nombre d'espèces d'adventices qui explique le nombre d'espèces de pollinisateurs sauvages. Et on va avoir une relation positive quand on va y avoir peu de colza dans le paysage. Par contre, dès qu'on a beaucoup de colza dans le paysage, par exemple 10%, on va avoir une relation qui va devenir négative. Et on a l'effet qui est inverse avec l'étude de la quantité de prairies dans le paysage. On va avoir une relation positive entre la richesse en adventices et la richesse des pollinisateurs sauvages, mais seulement quand il y aura beaucoup de prairies dans le paysage. Quand il y en a peu, on a une relation qui devient nulle. Donc, pour revenir à notre question de départ, on se demandait si les adventices ils permettaient de maintenir les pollinisateurs sauvages dans les parcelles agricoles. La réponse, c'est oui, mais seulement dans certaines conditions. D'abord, on a montré leur importance donc dans les parcelles de céréales et surtout sur le nombre d'espèces et la diversité des pollinisateurs sauvages. Donc ça, c'est un résultat qui est super important parce que les cultures de céréales, elles représentent 40% de la zone atelier pleine des Vals de Sèvres et c'est aussi 50% des terres agricoles en France. Un autre résultat intéressant, c'est que les adventices, elles permettent de maintenir les pollinisateurs sauvages dans les parcelles de colza, mais seulement quand l'abeille domestique elle y est moyennement ou fortement abondante. Donc ici, ça suggère en fait une ségrégation de niche entre l'abeille domestique et les pollinisateurs sauvages, dans le sens où on aurait l'abeille domestique qui utiliserait les fleurs de colza, qui exclurait les pollinisateurs sauvages de ces fleurs de colza, et du coup, ces pollinisateurs sauvages dépendraient de façon plus importante des adventices qui leur fournissent. Ces deux résultats, ils sont importants parce qu'ils montrent... Ils mettent en évidence en fait l'importance des adventices dans le maintien des pollinisateurs sauvages dans les parcelles agricoles. Et du coup, l'importance de pas de la gestion, mais plutôt de la non-gestion des plantes adventices dans ces parcelles agricoles pour supporter les pollinisateurs et potentiellement la fonction de pollinisation. On a montré également qu'il y avait de forts effets du paysage, et ça confirme les autres études, mais que ces effets étaient souvent additifs. Dans le sens où, par exemple, dans une culture de céréales, augmenter la diversité des adventices, ça va nous permettre de gagner, par exemple, 4 espèces de pollinisateurs sauvages. Diminuer la quantité de bois dans le paysage avoisinant, ça va permettre de gagner 8 espèces. Et du coup, dans des parcelles où on va augmenter la diversité des adventices et réduire les bois à côté, on va gagner 12 espèces. Mais on a également vu que ces effets du paysage, ils pouvaient interagir avec les effets locaux ou la ségrégation de niches entre abeilles domestiques et certains pollinisateurs sauvages dont je vous parlais avant, ça pouvait être possible seulement dans certaines conditions paysagères. Donc, par exemple, dans des parcelles de colza entourées de prairies, mais également où il n'y a pas de colza dans le paysage alentour. Et aussi, ces effets du paysage qui peuvent s'additionner aux effets locaux ou interagir avec ces effets locaux, ils sont importants à prendre en compte pour les stratégies de conservation des pollinisateurs, dans le sens où il ne faut pas seulement des stratégies à l'échelle parcellaire, mais il y a une nécessité en fait, de mettre en place des stratégies globales à l'échelle des territoires agricoles. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup.